Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie podcast season 4.
Saison 4 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Clément Bertin. Bonjour Clément.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Caracalla. Vous avez fondé votre agence en 2018 avec Martin Carmel. Vous travaillez dans des zones à haute valeur naturelle avec les contraintes patrimoniales et climatiques. Vous êtes pluridisciplinaire avec un caractère itinérant, agile, pour vous inscrire dans des écosystèmes de projets. Chez vous, on parle régénérescence. Et j'avoue que le terme m'a beaucoup plu parce que je trouve que réinventer qui est galvaudé et emprunté à toutes les sauces est très prétentieux. Je trouve que régénérescence, c'est plus doux, c'est plus accompagnant, tout simplement. Alors, dans le cadre d'Europe 16, votre projet Cardo sur le site d'Olna, avec Martin Carmel, Sarah Impera, architecte, Julien Truglas et Giulia Pignocchi, qui sont paysagistes, a reçu donc ce projet une mention spéciale. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Et vous pouvez extrapoler aux membres de votre équipe si vous le souhaitez. Voilà.
Okay. Merci Charlotte. Alors, on est trois. Martin Carmel, qui est mon associé,
d'accord.
Et Sarah Impera, qui nous a rejoint dans l'équipe, qui est maintenant associée à l'agence depuis 2019.
D'accord. Ah oui, ça fait déjà un petit moment.
Ça fait déjà un petit moment.
D'accord.
Alors, mon parcours, notre parcours, le mien pour démarrer, donc je suis parisien. J'ai grandi à Paris. J'ai assez tôt voulu faire l'architecture. J'aimais beaucoup dessiner. Et j'ai été rapidement attaché à ça, au dessin et à l'observation avec l'enseignement de mes parents, de mon père d'abord, qui m'a souvent invité à travers des voyages à observer les choses, à les comprendre sans, et à, avant tout peut-être les interroger un petit peu plus finement, précisément, que simplement les regarder ou les consommer. Donc ce parcours, il a démarré peut-être avec le voyage.
Mais votre père était architecte ou dessinateur ou...
Alors non, pas du tout. Mon père était, est toujours médecin.
Ah d'accord.
Et toujours médecin, mais il s'est assez intéressé de manière... précise à beaucoup de sujets variés. Et ma mère était éditrice, donc à la fois un peu scientifique et littéraire, ce qui m'a donné peut-être une approche un peu multiple dans cette observation. Donc la jeunesse, j'ai grandi à Paris et Londres, où mon père a vécu pendant pas mal d'années. Ensuite, j'ai démarré mes études à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, cette école à Paris qui a été... récemment construite par Borel, qui avant était dans les Beaux-Arts et qui a été donc installée dans ce bâtiment en bord de Seine. Et puis, avec ces années de formation, ça m'a permis d'approfondir ce regard. Je suis allé également faire un petit peu plus d'une année d'études à Buenos Aires, en Argentine, parce que j'avais besoin d'aller observer une architecture lointaine, la plus loin possible. C'est ce qui, je crois d'ailleurs, avait été ma motivation principale. Ce n'était pas nécessairement un type d'architecture ou un style ou la renommée d'un pays pour son architecture, mais plutôt aller à la recherche d'une histoire ou d'un patrimoine d'habitat, d'architecture qui soit vraiment le plus éloigné possible de notre quotidien finalement. Je dirais que cette envie d'aller observer les choses du lointain, ça a toujours été pour moi une grande motivation.
C'est quelque part repousser des limites ?
Oui, en effet. C'est aller chercher plus loin que le pas de sa porte ou chez son voisin.
Ou que la semelle de ses chaussures.
Ou la semelle de ses chaussures, en effet. Et donc, j'ai voulu me forger une expérience professionnelle multiple. Donc, j'ai travaillé à Buenos Aires, dans une agence qui s'appelle Anthony Rivoira Arquitectos. J'ai travaillé à Madagascar, dans une agence qui s'appelle AD2.
Je crois que c'est une assez grosse agence, non ?
Je pense que maintenant, c'est une des agences les plus grandes en termes d'effectifs. Alors, la manière de travailler est assez similaire, en fait. Ce qui était intéressant dans cette architecture à Madagascar, c'était que l'associé principal avait fait ses études dans une école russe. Et donc, il y avait un mélange entre un patrimoine culturel malgache assez rustique, peut-être, on pourrait dire, et puis une version de l'architecture ou un enseignement qu'il avait reçu beaucoup plus brutaliste. On a tous en tête ces architectures de l'époque soviétique en béton magnifique, qui sont rudes, mais...
Oui, qui ont une certaine beauté par leur hiératisme, cette espèce de silence, en fait, et cette ampleur.
C'est des bâtiments, une architecture qui est très communicante, dans le silence, peut-être.
Oui.
En tout cas, elle est évocatrice.
Oui. Vous n'êtes pas allé en Angleterre travailler
aussi ? Si. Alors, j'ai commencé à travailler ensuite dans l'agence BDP, BDP Partnership, qui est une agence basée à Londres, Clerkenwell, dans le centre de Londres. C'est l'agence la plus grande en Europe, avec le plus grand nombre de partenaires et de collaborateurs. À l'époque où j'y étais, ils étaient presque 1500. Je pense qu'ils sont encore plus nombreux aujourd'hui.
La grosse machine.
La grosse machine. Une expérience intense dans un environnement de travail qui est presque à l'opposé de ce qu'on fait ici, où on a, enfin, en tout cas dans notre agence à Caracalla, presque une manière empirique de faire les choses. Tandis que BDP, c'était évidemment une machine à faire, une machine de guerre, avec une dizaine de collaborateurs ou collaboratrices pour faire n'importe quel travail support du projet. Donc avec une hiérarchie absolue, pyramidale, jusqu'au sommet avec les bureaux des directeurs qui étaient au 10e étage avec la vue à 360 sur tout Londres et la City.
Vous êtes resté combien de temps là-bas ?
Je suis resté 6 mois.
Oui.
C'était assez court.
Oui. Vous n'avez pas eu le temps de trop souffrir de la hiérarchie ?
Non. Au contraire, ça a été vraiment enrichissant de...
Au niveau des process.
Au niveau des process, oui.
Ouais, et de l'efficacité dans le travail.
Et de la variété des supports qu'on peut avoir à disposition pour faire un projet d'architecture.
Quelque part, c'est aussi confortable.
C'est très confortable. Ouais. C'est très confortable parce qu'il y a une équipe de projet qui réfléchit au projet, qui élabore le projet, mais il y a une équipe de 30 personnes... maquettistes, qui ont fait des études pour ça, qui sont brillants dans leur métier. Il y a également des designers, une équipe de 30 designers, de 30 architectes d'intérieur, d'ingénieurs intégrés au processus de conception, de thermiciens, etc., etc. Donc c'est une équipe, en fait, complète, où dans notre démarche architecturale de conception française, ou en l'occurrence parisienne pour nous, tout ce travail-là se fait en externe, avec d'autres partenaires, mais en externe. Tandis qu'il y avait une espèce d'efficacité absolue...
À l'anglo-saxonne.
Oui,
avec, j'imagine, une population très cosmopolite à l'intérieur. Donc, toutes les particularités de chaque nationalité, quand on en a besoin. J'ai connu ça, en fait. Alors, justement, c'est assez intéressant, parce que là, vous créez votre structure. Vous êtes, entre guillemets, petit, en devenir... Et on a l'impression que vous êtes à l'opposé de ce genre de démarche, avec une attention au contexte ultra fine. On le voit quand on arrive sur votre site internet, sur vos projets. Et quand on lit ce terme régénérescence, vous n'êtes pas des rouleaux compresseurs, vous êtes tout l'inverse. Alors comment cette aventure a pris ? Vous avez peut-être aussi envie de parler du parcours de vos partenaires.
Oui. Cette présentation, elle, peut-être que je ne l'avais pas perçue moi-même, d'une certaine manière, c'est que c'est vrai qu'elle est à l'opposé, mais en même temps, pas si éloignée. Finalement, c'est une question d'échelle. Je pense que dans l'optique de créer une agence de 1500 personnes, je pense que les méthodes, les ambitions et les convictions sont sans doute les mêmes. Les échelles de projet sont différentes.
Oui.
Alors, je vais commencer par Sarah. Oui. Donc, Sarah Impera, qui est italienne et qui a rejoint l'agence en 2019, qui a un parcours universitaire en plus d'un parcours professionnel, donc, qui est docteur en architecture de l'école de Milan.
Le Politecnico, c'est ça ?
Oui, le Politecnico, qui a fait une thèse sur les villages abandonnés de la Sardaigne et sur comment trouver des outils pour transférer ces domaines et ces architectures vers une utilisation sans les dénaturer. Elle a donc un parcours professionnel à l'agence Ardel-le-Bihan Architecte, tout comme moi d'ailleurs, une expérience de 10 années.
Vous êtes connu là-bas ?
On s'est connu là-bas, oui. Mon associé, Martin Kermel, on a un parcours assez différent également. On était dans la même école, Paris-Val-de-Seine. Et alors, lui, comme son nom l'indique, Kermel, la maison du miel en breton, est breton. Ouais. Et donc, il a une approche également qui, je dirais, se fait vraiment dans le détail et dans la... peut-être modestie de l'approche à l'architecture. Il a cette considération, cette approche très pointilleuse.
Il trouve de la beauté dans les choses simples.
Exactement, c'est vrai. Et donc, avec Martin, on a travaillé ensemble très vite, jusqu'à 2018, où on a décidé ensemble de s'associer au sein de l'agence qui s'appelle Caracalla Architecte. Caracalla, ça...
Ce sont les termes romains.
Ce sont les termes romains. Ce n'est pas l'empereur romain qui était un peu...
Oui.
un peu plus...
Qui n'a pas une très bonne réputation.
Qui a une mauvaise réputation. C'est effectivement l'idée de faire un hommage à cette architecture qui, donc, à cette époque, était l'idée de construire pour le bien-être de toute une population et dans des échelles absolument considérables. C'est cette problématique qui, d'ailleurs, nous touche beaucoup et nous guide dans la formalisation de nos projets. C'est comment arriver à trouver de la qualité d'usage, de la qualité et du bien-être dans l'architecture et dans la fonction de nos bâtiments. Et donc, cette inspiration, évidemment, les termes de Caracalla, que pour ma part, j'ai découvert peut-être il y a l'âge de 7 ans.
En plein Rome,
couvert d'une forêt de pins... parasol, je pense, avec une couleur brique, rouge.
Et puis une attelle aussi pour faire tenir la ruine.
Oui.
Une attelle très, très agile et très technique. C'est marrant comme contraste.
Tout à fait. Il y a un mélange de technicité relié à cette nécessité de conserver le patrimoine. Bon, c'est un lieu fantastique qui est chargé d'histoire, mais pas que. D'une certaine manière, c'est aussi un souvenir des processus constructifs, de la qualité de la manière de construire.
Oui, avec des grandes portées, des voûtes à caissons
incroyables,
géométriques.
C'est vrai que cette portée, enfin, il y a un côté un peu gigantisme, en tout cas une approche. Enfin voilà, on se demande, en faisant un parallèle avec notre époque et notre manière de concevoir l'architecture, les bâtiments... Et ce qu'on construit, tout simplement, c'est énormément de travail et sans doute énormément d'argent pour l'époque, pour le bien-être de tous les citoyens.
Oui, puis c'est aussi une leçon d'humilité, parce qu'on a tendance à se dire, nous, on est les plus forts avant l'obscurantisme du Moyen-Âge. D'abord, il y a des choses au Moyen-Âge qui sont extraordinaires, et c'est encore avant, et les témoignages... qui reste encore aujourd'hui. Quelle leçon aussi de pérennité.
C'est un très beau témoignage.
Ouais.
Alors, il y avait évidemment beaucoup d'exemples de ce type-là qu'on pourrait trouver.
Oui, mais justement, ils nous ont laissé
Ils nous ont laissé un patrimoine et...
qui, dans le temps, quand même, a fait ses preuves.
Mmh. Mmh. Tout à fait.
Donc, sur les techniques, vous le disiez, c'est ultra intéressant.
C'est vrai que ce qu'on retrouve et ce qu'on perçoit aujourd'hui dans l'architecture romaine, et notamment dans les termes de Caracalla, n'est pas forcément ce que les Romains percevaient à l'époque. Où, en fait, cette brique qu'on trouve absolument merveilleuse, scintillante, vibrante, elle était en réalité cachée derrière des... tout aussi belles pierres, blocs de marbre et diverses mosaïques en terre cuite, peinte, etc. Donc en fait, ce qui reste de cette architecture, c'est finalement ce que les Romains souhaitaient cacher. Et c'est ce que nous, on trouve peut-être le plus...
C'est émouvant.
Le plus émouvant, voilà.
Il en reste l'essence ?
Il reste l'esprit, il reste la matière grise.
Oui, puis l'essence de l'architecture, comment on part de cette base structurelle ?
Et c'est vrai que nous, dans nos projets, on a tendance à avoir une approche assez différente de celle-ci, malgré tout. On essaye de trouver l'essence des choses. On n'essaie pas de les masquer derrière des appareillages plus coûteux ou plus chers. On essaye de trouver l'essence, justement, dans ce qu'est la matière réellement, ce qui porte le bâtiment, son corps.
Alors, on va bientôt passer au projet, mais aujourd'hui, vous avez... Donc, une activité d'agence, vous êtes à la tête de votre agence, vous sortez des projets, vous êtes associé, vous avez une équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Vous avez certainement des frustrations, quelles seraient vos envies ? Voilà, appropriez-vous un peu la question.
Alors, je pense que à cette question, que je trouve très pertinente, et également aussi inhabituelle, pour une équipe d'architectes naissante, comme la nôtre. Mais je dirais quand même oui, parce que ce qu'on voulait accomplir, peut-être au démarrage à notre jeunesse, c'était déjà pouvoir faire de l'architecture. Faire de l'architecture en son nom propre, pouvoir s'exprimer, d'une part, mais aussi pouvoir réfléchir sur la conception, sur ce qu'est l'architecture, sur l'essence de l'architecture. Et en effet, on a, disons, cette... sensation ou cette approche dans l'architecture, également dans la commande de nos projets, relativement peut-être modeste. On ne construit pas 10 000 m² par an. Je ne sais même pas si on aimerait bien construire 10 000 m² par an. C'est vraiment pas notre ambition. On essaye de bien construire et à chaque fois de challenger nos projets, à la fois dans comment les faire. Donc on essaie des nouvelles approches, des différents processus de conception. Mais c'est vrai qu'avant tout, on essaye de garder cette liberté d'imaginer et d'être très libre dans la manière de faire le projet d'architecture. On n'essaye pas de se formaliser ou... Par exemple, quand on démarre un projet, peut-être qu'à la fin, ça nous retombe un petit peu dessus. C'est vrai qu'on essaye de se libérer totalement de l'économie du projet. On n'essaye pas de rentrer dans des cases pour faire sortir le projet. Au démarrage d'un projet, on essaye toujours d'avoir deux pistes possibles. Une piste qui est réalisable et une piste qui a quand même peu de chances d'être réalisable. Pour des questions de coût, pour des questions de structure, pour des questions d'accord avec notre client. Donc on essaie de libérer le projet, de le libérer dans le sens architectonique, mais aussi dans le sens de la manière d'utiliser les espaces qu'on est en train ou qu'on va être en train d'imaginer.
Et de ne pas le contraindre à un usage.
Ne pas le contraindre, ouvrir les champs, ouvrir les possibilités. Parfois, on essaye même de ne plus penser à la gravité pour vraiment libérer notre manière de faire. Et ça, cet accomplissement, on le fait perdurer sur des projets très variés. Alors, je vais parler, par exemple, de plusieurs projets qui sont artistiques, qu'on a réalisés depuis quelques années maintenant, et d'autres qui sont en train d'être faits. On a cette partie architecturale peut-être plus classique, où on fait ces projets de...
Quel type de projet ?
D'habitat individuel, de maisons individuelles, on a fait des appartements, on a fait des écoles.
Donc vous répondez aussi à des marchés publics ?
On répond à des marchés publics, on répond à des appels d'offres pour des logements, pour des équipements... On fait également des bureaux. Donc, on a vraiment cette partie de l'agence qui est, disons, le parcours classique d'une agence d'architecture. Et en même temps, en parallèle, et c'est en même temps très lié, on a cette démarche architecturale qui se concentre sur des projets qui sont de l'architecture, mais qui ne le sont pas totalement. Comme l'arbre de pluie, qu'on a réalisé avec le pavillon de l'Arsenal dans le cadre de Fer, qui est une fontaine greffée aux arbres des villes, qui se déclenche par le cri, la bonne humeur, la joie, le chant. Et donc, ce projet-là ne peut pas réellement être considéré comme de l'architecture, parce qu'elle ne crée pas de toit ou de construction, mais pour autant, elle crée de l'usage dans la ville. Elle permet de lutter contre l'effet îlot de chaleur urbain, qui est une problématique récurrente dans nos villes maintenant. Voilà. Récemment, on a réalisé un terrier humain qui s'appelle Human Den, qui est à Kildare Castle, qui est réalisé dans le cadre d'une biennale, une triennale, en collaboration avec mon frère Antoine Bertin, qui est donc artiste. Ce projet, c'est une chambre anéchoïque. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on a autour de nous dans le studio actuellement. Ouais. Une chambre anéchoïque avec aucun écho, qui est enterrée dans la forêt de Kildare Castle, donc une forêt
assez dense.
Dense en arbres, en végétation et surtout en rongeurs, en animaux de toutes sortes. Et donc, cette chambre anéchoïque, c'est une manière de pouvoir s'installer dans un lieu pour l'écoute des rongeurs et des burrowers. C'est les animaux qui creusent.
Ceux qui vivent sous la terre.
Qu'on ne voit presque jamais.
Alors, vous l'avez testé
Alors, on l'a testé, oui. C'est réalisé maintenant. Donc,
ça
la chambre,
visite.
Ça se visite.
Donc, on voit les petits rongeurs arriver.
Alors non, on ne les voit pas, on les écoute.
Ouais, ouais.
C'est vraiment une situation de fermer les yeux. Et donc c'est une pièce totalement dans la pénombre, qui est habillée de lièges qui ont été sculptés en forme de cône anéchoïque, de manière à ce que l'ambiance acoustique soit d'une très grande qualité. Et donc toute cette paroi, elle vibre. Il y a des micros qui sont installés dans des terriers à proximité. Et donc quand un rongeur, quand un animal sous terre fait son terrier ou prend soin de ses nourrissons, toutes les parois de la chambre vibrent en même temps que cette action. Voilà, donc c'est une manière de...
D'explorer ce qu'on ne voit pas.
Explorer ce qu'on ne voit pas et peut-être aussi créer un usage nouveau.
Alors par exemple, si un fou arrive à nous atomiser, ça peut être une réponse pour continuer de vivre.
Oui, alors je pense
vous
pas.
Vous y avez pensé ou pas?
Oui, je pense pas qu'on pourra se protéger malheureusement à l'intérieur de la chambre anéchoïque d'une bombe atomique. Ça rime en plus. Mais oui, je pense qu'il faudrait plutôt proposer à nos potentiels lanceurs de bombes d'aller se ressourcer dans ce genre d'espace.
Bon. On ne pense à personne en particulier.
Non.
Non. Bon. Et vous en avez d'autres, des projets atypiques comme ça? Parce qu'on pourrait vous écouter en parler.
Oui, on en a d'autres. On est en train de réaliser deux projets. Un projet en Italie, qui est donc sur l'île d'Alicudi, en Sicile, sur les îles éoliennes, qui est une résidence artistique, qui est perchée à 450 mètres sur un volcan éteint. Mais qui fait quand même face au Stromboli, à quelques miles nautiques plus loin, qui était en éruption il n'y a pas si longtemps. On est en train de réaliser cette résidence artistique qui sera un lieu pour les artistes afin qu'ils puissent réaliser ou travailler dans un environnement sonore le plus calme possible. Voilà, parce que Alicudi, c'est une île où il n'y a pas de voiture, où il y a de l'électricité simplement dans un village, si on peut appeler ça comme ça, qui se trouve au bord de l'eau, donc au niveau plus 1, plus 1,50 m. Voilà. Mais ensuite, dès qu'on monte dans les étages de l'île, parce que c'est une île qui est assez rude,
escarpée,
à 45 degrés, donc c'est vraiment un cône. Et pour monter donc, dans ce lieu assez fantastique, il n'y a que des marches en pierre absolument magnifiques. C'est un chemin en pierre avec des marches qui font 40 cm de haut et 1,50 m de profondeur à peu près, qui déambule dans la géographie, à travers la géographie de l'île. Enfin, donc c'est assez compliqué d'y aller. Mais une fois qu'on est perché à 450 mètres de haut, il n'y a plus aucun bruit. Et donc, on est en train de réaliser un studio d'enregistrement à l'air libre. Ce qui est assez contradictoire, parce que généralement, les studios d'enregistrement sont plutôt des lieux très confinés, très clos. Fermés, clos. Alors, par exemple, celui-ci, il y a une toute petite fenêtre.
Et déjà, c'est trop.
Et c'est presque trop pour la qualité acoustique. Voilà, donc on a l'ambition pour ce projet de créer un studio d'enregistrement de plein air où l'enregistrement, la création sonore peut se faire dans un environnement de très grande qualité.
Alors, dans votre architecture plus classique et ordinaire, je vous propose peut-être de cibler un projet pour redescendre sur, entre guillemets, terre. ni sous la terre, ni au-dessus, mais sur le plancher
entre
des vaches. Voilà. Peut-être d'un projet que vous avez réalisé juste ordinaire, que vous trouvez peut-être un peu plus emblématique que les autres. Et puis après, je vous propose d'aborder le projet au rampant.
Okay.
Voilà. Je crois que vous avez un exemple de maison réalisée.
Oui, alors c'est vrai qu'à l'agence, on a un attachement. Alors on ne fait pas que des projets de maisons individuelles, mais on a un certain attachement fort à la conception, à l'imagination de maisons individuelles pour des clients privés qui viennent nous chercher. Parce qu'on a ce plaisir à travailler peut-être en direct avec des personnes. C'est un projet qui est une toute petite maison dans la ville de Romainville, donc en limite de Paris, proche des Lilas, dont le chantier est en train de se terminer, qui est une maison qu'on a conçue avec cette idée de pouvoir l'ouvrir intégralement sur le plus grand jardin possible. C'est les clients qui ont décidé il y a quelque temps de s'installer dans une maison avec jardin, mais sauf qu'ils avaient acheté une maison ou presque une cabane sur un terrain vraiment microscopique. Et peut-être que leurs ambitions en termes de spatiales, en tout cas, elles étaient contradictoires avec leur acquisition. Et donc, tout le processus de conception a été guidé par cette nécessité d'avoir à la fois une grande maison et à la fois un grand jardin dans une parcelle qui fait 100 mètres carrés, donc qui n'est pas très grand.
Donc, vous avez pensé à Jésus et vous vous êtes dit, on va multiplier.
On a proposé de réaliser une maison sous forme très classique pour les architectes, de patio, avec un espace de vie qui s'ouvre intégralement sur un jardin intérieur qui fait 40 mètres carrés. Donc il y a 60 mètres carrés au sol et dans la maison, avec trois espaces qui se trouvent en périphérie de ce jardin central. Et donc, on a ouvert intégralement cette maison sur ce jardin pour que, d'une certaine manière, il n'y ait plus de limites entre les deux. Et donc, on a réussi, jusqu'à un certain degré, à ce que la pièce de vie soit toute la parcelle, à ce que la pièce de vie puisse être considérée comme l'intégralité de la parcelle. C'est-à-dire qu'entre l'espace de vie et le jardin, notre conception a permis d'avoir simplement deux poteaux structurels qui portent la...
Vous êtes en structure béton ou métallique ?
On est en structure béton,
oui.
Béton de site.
Oui.
On a fait les fondations donc en béton, disons, standard.
Classique.
Et on a fait un béton de site avec ciment pour l'ossature primaire et ensuite on est en plancher bois.
Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos éditeurs ce qu'est un béton de site ?
Alors un béton de site, c'est un béton qui est réalisé avec une par des gravats, on pourrait appeler, ou de la terre issue du terrassement. Donc, dans une certaine mesure, ça permet d'envoyer moins de terre à la décharge, ou en tout cas, trouver une manière de la réutiliser directement dans le projet. Et donc, ça reste du béton, puisque c'est structurel, ferraillé, mais ça intègre de la terre, c'est mélangé avec du ciment, mais ça intègre un peu de terre du site, du lieu. Voilà.
Alors donc, elle tourne autour d'un espace intérieur planté qui est un patio couvert ou non couvert ?
C'est un patio non couvert, un patio intégralement extérieur. C'était aussi, disons, une manière d'aborder la question de manière un petit peu plus large, puisque à l'origine, la maison était une cabane en bois et en parpaing et en plâtre, et existait une petite cour extérieur d'une vingtaine de mètres carrés sans aucune infiltration dans le sol. Et là où on a été très attentif, c'est pouvoir créer une pièce de jardin où l'eau puisse s'infiltrer, où la végétation puisse pousser de manière presque exubérante, qui puisse amener de la fraîcheur et surtout qui puisse redonner naissance dans le centre de Romainville, recréer des pièces végétales qui sont constitutives du tissu pavillonnaire, donc à peu près toute la ville. Mais c'est vrai avec beaucoup de ces parcelles pavillonnaires qui sont assez souvent recouvertes de matériaux qui laissent plus passer l'eau, ni la végétation, ni les petits animaux, etc. C'est vrai que c'est important que cette pièce verte elle puisse également reconnecter un petit peu la parcelle au contexte.
Et j'imagine que votre client vous suit complètement dans cette démarche.
Il nous suit totalement dans cette démarche. Disons que quand des privés viennent rencontrer des architectes, mon expérience est qu'ils n'ont pas souvent eu affaire dans le passé à des architectes. Ils sont très ouverts et très rapidement, ils vont très rapidement dans le même sens que nous.
Oui, vous arrivez à convaincre. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet Europan ?
Oui. Alors, c'est un projet qu'on a fait avec notre équipe, avec Martin Carmel, avec Sarah Impera, avec une collaboratrice de l'agence Viridiana, qui a apporté également pas mal d'input au projet.
Et Julien et Julia, c'est ça ?
Julien et Julia, qui sont paysagistes, qui ont créé la société LEMA Paysage, il y a quelques années. Et donc, avec notre équipe, on a répondu au projet d'Aulna. Alors, c'est une région qu'on ne connaissait pas du tout. C'est au cœur de la France. C'est une ville en périphérie de Clermont-Ferrand. Aulna est plus souvent connue pour son aéroport, qui est un aéroport qui n'est presque pas utilisé. En tout cas, quand on a envie d'aller à Clermont-Ferrand, on ne se dit pas qu'on va prendre l'avion.
Ouais.
Et pourtant, il existe.
Ouais.
Alors, il est sous-utilisé. Et on a choisi ce site parce qu'il nous a semblé important et évident d'avoir une réflexion sur ces territoires qui sont perturbés par des grands ensembles du fonctionnement urbain. On a également travaillé 2 années avant sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine, dans le cadre de Repan, qui était le projet lauréat. Et Port-Jérôme, c'est une ville en Normandie, en face du plus grand site pétrochimique d'Europe. Donc, il faut s'imaginer un endroit idyllique, les bords de Seine, les roselières à perte de vue, et puis des cheminées et une odeur acide.
Le pire ennemi est en face.
Voilà. Et donc, Aulna, évidemment, ce n'était pas le même type de pollution, mais l'aéroport d'Aulna, c'est
une nuisance, voilà, potentiellement.
C'est même une nuisance, avant tout une nuisance sonore. Ensuite, une nuisance pour la pollution de l'air, pour l'imperméabilisation des sols. Voilà, les aéroports, c'est des surfaces absolument gigantesques qui sont recouvertes d'asphalte. Et pourtant, c'est un potentiel de foncier assez incroyable. Et donc, on a choisi ce site parce qu'il y avait cette dichotomie entre une volonté d'habiter dans un petit cœur de ville, un village magnifique, dont le centre est un fort qui est intégralement construit avec de la roche volcanique issue du site et du contexte des volcans d'Auvergne à proximité. Et donc voilà, comment faire un projet qui puisse accepter l'aéroport, qui est une nuisance, et créer de la vitalité et régénérer un lieu finalement pour que ça devienne un lieu de vie qualitatif et un village dans lequel les habitants, d'une part, seront heureux de vivre, et d'autre part, viendront. Dans ces villages-là, il y a une certaine difficulté, finalement, à redonner de la population, à redonner de l'activité.
Oui.
Parce qu'il y a assez peu d'attractivité.
Vous gardez l'aéroport ?
On garde l'aéroport, là. On a... Oui, on garde l'aéroport. En fait, on a appelé notre projet Cardo.
Encore donc, les Romains ?
Encore les Romains. Bon, ils sont souvent là. On a appelé notre projet Cardo avec cette ambition de recréer du lien entre 4 zones. Donc le Cardo, c'est 2 voies axées nord-sud, est-ouest, avec le centre, évidemment, qui est le forum. Et donc le centre du Cardo Dolna, le forum, c'est le centre-ville ou la place du marché. Et on avait cette volonté de recréer du lien aéroport, ville, nature, avec la vallée de la Limagne, qui est une grande vallée productive déjà à l'époque romaine, donc avec une terre argileuse qui est vraiment d'une grande qualité. Et d'un autre côté, faire un nouveau lien entre la ville et le grand parc naturel des volcans d'Auvergne à l'est et à l'ouest. Donc il y avait cette ambition à la fois de faire renaître le parc national des volcans d'Auvergne à l'intérieur d'Aulna, dans Aulna, au centre-ville d'Aulna, recréer du lien, recréer des passages, et puis recréer un lien, faire renaître un dialogue entre deux entités antagonistes, l'aéroport et la ville. Comment les faire fonctionner ensemble? Comment recréer du lien entre ces différents lieux? Et donc, ce qu'on a tenté de réaliser, c'est d'abord imaginer un futur plus vertueux, plus enviable pour l'aéroport d'Aulna. Et donc, cette transition, pour nous, elle était inévitablement connectée au passage de l'avion qui se déplace au pétrole à l'avion qui se déplace par l'énergie solaire ou par l'électricité. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, en faisant de la recherche dans ce domaine-là, c'est là où ça devient intéressant, c'est que notre approche d'architecte, elle se développe même presque à aller comprendre, et en tout cas essayer de comprendre comment un avion peut fonctionner.
L'évolution de la technique.
L'évolution de la technique.
De l'aérospatiale.
Qui est au support de l'architecture.
Et voilà, et toutes les voies d'avenir pour pouvoir anticiper et proposer des infrastructures adaptées à ce qui va arriver dans quelques années.
Tout à fait. Et donc, en s'intéressant à ce sujet, on s'est rendu compte que ce n'était pas une utopie, mais une réalité sur 5-10 ans. Et a posteriori même, en ayant discuté avec Madame la maire d'Aulna, elle était déjà en train de discuter avec des entreprises qui veulent s'installer à Aulna pour développer des activités aéronautiques électriques. Donc, créer une compagnie d'avions électriques. Donc, en fait, c'était finalement, a posteriori, aussi un avenir ou assez proche.
Oui, il y avait déjà un embryon de recherche, de centre de recherche.
Voilà. Et donc, à partir de ce postulat, on a essayé de recréer un lien entre le centre ville d'Aulna et l'aéroport, en prenant comme point de base le fait que les aéroports à travers le monde, à travers l'histoire, sont des réserves foncières absolument incroyables. On l'a juste à côté ici à Paris, Charles de Gaulle ou Orly, c'est des kilomètres carrés de surface, d'une part non construite, mais d'autre part non utilisée. Il y avait cette volonté de pouvoir régénérer l'aéroport et lui redonner du sens vis-à-vis de son paysage et de son territoire. Et ce point de base-là, ça nous permettait de créer ce grand cardo qui traverse la ville. Donc, renaturer l'aéroport, reconnecter au nord la vallée de la Limagne qui traverse et qui se rejoignent sur un forum au cœur d'Aulna. Voilà, et donc les paysagistes là-dessus ont été d'un grand support, évidemment, oui. Puisqu'ils apportent une grande valeur technique et même intellectuelle à ce schéma.
En fait, votre projet, c'est le lien entre les deux, plus que c'est pas l'aéroport, ni la ville qui est existante, mais c'est développer cette périphérie, en fait, cet interstice.
C'est exactement, ça c'est développer ces interstices. Mm. Notre projet à Aulna, c'est 5 mètres de large sur 200 kilomètres.
Ah oui, l'échelle est très importante. Ok. J'espère que vous allez nous envoyer vos visuels pour qu'on nourrisse un peu le mur Instagram. Et j'invite à ce moment-là les auditeurs à aller découvrir en images votre projet.
Hein? Alors, sur chaque projet qu'on réalise, on crée des vidéos, des supports vidéo, films, qui permettent de mieux faire comprendre le projet et d'amener une valeur artistique également à chacune de ses intentions d'architecture. Donc, il y a une vidéo qui a été réalisée à Aulna avec une artiste qui s'appelle Hélène Combavais. Et puis à Port-Jérôme aussi, on a fait un petit film. Voilà. Donc sur divers projets, on s'efforce.
Vous utilisez le support vidéo.
Ouais.
Ok. Donc, vous allez travailler avec l'équipe lauréate pour compléter vos propositions.
Alors, quand on participe à Europan, c'est vrai qu'il y a un gagnant, un deuxième, un troisième. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça.
Oui.
On est sélectionné et ensuite les villes travaillent, peuvent travailler avec toutes, une ou l'autre,
oui.
Sans forcément trop de correspondance.
Oui. Avec liberté.
Avec liberté.
De choix.
Donc, pour ce projet-là, on a fait une rencontre avec la ville en mars dernier. Et la ville a pris la décision de démarrer une commande publique qui consulte les trois équipes pour réaliser une étude urbaine, voilà, qui va permettre de mettre en lien chaque projet d'une part et que chaque équipe puisse enrichir à leur manière le projet urbain d'Aulna au service de la ville et des attentes des habitants.
J'ai deux, trois questions encore. Tout d'abord, comment vous imaginez l'avenir pour votre agence? Est-ce que vous avez envie de continuer sur cette voie à la fois de projets assez traditionnels et doublé d'une mise en abîme, en tout cas d'une interrogation par rapport au projet et au sens de la vie aussi, parce qu'on sent que vous allez en profondeur dans votre réflexion? Et puis après, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en archi aujourd'hui? Voilà.
Alors oui, je pense que, en tout cas, nous, dans notre démarche d'architecte, on est vraiment convaincus qu'il faut persévérer dans cette voie qui est à la fois classique et artistique, et également avoir une démarche de recherche continue et perpétuelle. Pour nous, l'architecture, elle n'est pas nécessairement construite. Ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est que l'architecture qui reste sur le papier ou qui reste dans les cartons, elle est, je pense que c'est vrai pour tout architecte, elle est beaucoup plus importante et massive que le résultat construit.
Oui, mais en même temps, ce qui vous fait vivre, ce sont les projets réalisés. Il faut trouver l'équilibre entre
c'est
les
vrai,
deux.
C'est vrai, il faut arriver à trouver l'équilibre.
Oui.
Mais on s'est donné pour interdiction de faire des projets alimentaires qui ne nous intéressent pas et qui ne nous stimulent pas intellectuellement. Je pense qu'il faut trouver pour son agence un bon rythme de production architecturale qui est évidemment connecté à l'économie. Donc là, on y est arrivé, donc on est satisfait de cette production. J'espère que ça continuera comme ça. On n'a pas pour choix, en tout cas, de changer cette démarche qui nous plaît, tout simplement.
Alors, les étudiants, quel message vous avez envie de leur passer?
Les étudiants, je donnerais un message assez simple, c'est observer absolument tout ce que vous pouvez observer et aller dans le détail.
Bon. Un mot de la fin?
Merci.
C'était avec grand plaisir.
Un grand plaisir pour moi aussi.
Vous nous avez emmenés dans votre imaginaire et c'était avec joie parce que je trouve que c'est un pan de l'architecture qui manque un petit peu aujourd'hui. On est tellement angoissés par ces histoires climatiques que ça freine un petit peu. Et vous nous avez emmenés, donc c'est bien. Bravo, continuez.
Merci.
Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas la version en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.